C'était donc Geez, comment on dit? Aide-moi.
Geez,
ok, qui veut dire oua, non, c'est ça? Non, c'est une oie, non?
Non, c'est... Ah ouais, c'est des oies, c'est une oie au pluriel. Geez.
Non, ouais, je crois. Ah, goose, ouais.
Ouais.
Ouais, c'est, ah ouais, c'est, je pense
oies,
que c'est ça.
C'est les oies. Ah oui, j'avais oublié.
Ouais.
Goose, geese.
Okay. Voilà. Avec le morceau Low Era, donc sorti il y a 2 ans. Donc ça, c'est un groupe que, enfin, j'ai accueilli au Point Éphémère un jour et je connaissais pas. Et putain, ils étaient super sympas. J'avais un t-shirt de Squid et ils ont fait oh putain, super t-shirt et tout. Ah ok, vous connaissez, cool. Et là, maintenant, en réécoutant le truc, je me dis c'est vrai que des fois il y a des petites côtés Squid vite fait, bon, peut-être moins ce morceau. Donc voilà, ce morceau, c'est un peu le tube de l'album, je le trouve trop bien. Ouais. Voilà, toi, quand t'as entendu la voix, ça t'a fait écarquiller les yeux.
Ça m'a étonné, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu une voix comme ça.
Il a une voix super cool. Et voilà. Et juste avant, c'était.
Patio.
C'est ça, Patio avec le morceau, je sais plus, Relix.
Ouais.
Ok, eh ben on va se quitter là. Merci, merci de nous avoir écoutés. C'était c'était l'émission En veux-tu, en voilà, sur Radio Libertaire 89.4 FM, Radio Anarchiste. Voilà, si au cas où vous tombez des nus, vous êtes là, vous savez pas où vous êtes. Et voilà, donc on est avec Imogène. Et t'as un dernier morceau à nous faire découvrir avant de rendre l'antenne.
On va finir sur un morceau idée au débat. De Dream Wife.
Ok. Voilà. Femme de rêve.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Qui s'appelle Love You More. Ok, tu peux me parler un peu de.
Love You More?
Ouais.
C'est celle-là que je t'avais dit?
Ouais.
Ok. Ouais, c'est un morceau. C'est un groupe de filles, du coup, qui s'est monté un peu en blaguant. C'est marrant, c'est des
étudiants. C'est pas le truc d'avant, ça?
Non, okay. Mais c'est. Bah, si, c'est la même histoire. C'est ça qui est marrant, c'est pour ça que j'enchaîne, en fait, Patio aussi. Mais ouais. Elles, c'est des meufs des Beaux-Arts, pas du tout musiciennes, qui se sont dit, vas-y, on monte un groupe. Et maintenant, elles sont super connues, elles ont décollé. Et c'était juste un prétexte pour faire la tournée des bars. Et en fait, maintenant, elle tourne partout dans le monde. Donc.
Ok, putain, c'est un peu la même histoire que Keg, quoi.
Bah ouais, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'histoire de pas mal de groupes, finalement. Il vaut mieux que ce soit une blague, en fait.
Ouais, ok.
Faut pas être sérieux, en fait.
Ok, et bah du coup, on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous. Et on se laisse avec Dream Wife, Love You More. À plus.
À plus.
rien de tout ce marre dans les castes. Mon cerveau est fatigué à l'envie pour nous de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire. Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence avec au programme deux ouvrages très différents mais aussi bien l'un que l'autre. Le premier s'intitule Rose Nuit et c'est un roman paru chez Grasset qui a été écrit par Oscar Kopfan qu'on aura plaisir à retrouver dans quelques instants. Et le second c'est un premier roman très étonnant qui s'appelle Tumeur ou Tutu qui a été écrit par Léna Gare et qui est paru aux éditions Verticales. On retrouve tout de suite Oscar Kopfan pour Rose Nuit, paru chez Grasset. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'est l'émission Idéaux et débat qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Oscar Kopfan pour un roman qui est paru chez Grasset et qui s'intitule Rose Nuit. Alors c'est un court roman que ce roman Rose Nuit, mais c'est un roman très très efficace, très très fort qui moi m'a beaucoup touchée. Et j'aimerais savoir comment cette idée vous est venue, comment est né ce livre, comment ce thème de la rose décliné dans ses différentes facettes vous est venu en tête.
Écoutez, en fait, au départ, je voulais écrire sur les vendeurs de roses à la sauvette qu'on voit souvent devant les terrasses des bistrots dans beaucoup de grandes villes européennes. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai observé à Paris, à Rome, à Bruxelles, voilà, tout. La plupart du temps sont des hommes qui viennent du Bangladesh. En tout cas, à Paris, c'est vraiment essentiellement le cas. Et parce que j'y voyais une sorte de matière romanesque d'une manière très égoïste. Hein, c'est-à-dire que je me disais, voilà, il y a ça réunissait pas mal de thèmes pour moi romanesques intéressants. La solitude de ces hommes-là, leur parcours évidemment, et puis ces nuits entières passées à marcher seul dans les villes m'intéressaient. Bon, j'ai commencé une petite version de texte il y a une bonne dizaine d'années autour de ce sujet-là. J'ai rencontré quelques-uns de ces hommes. J'ai discuter avec eux, j'ai pu avoir accès pour certains un peu à leurs conditions de vie et tout ça, et je me suis aperçu aussi, après j'ai commencé, si vous voulez, à remonter un peu le fil de ces objets, de ce qu'ils vendaient, donc de ces roses, et là je me suis aperçu qu'il y avait un monde encore plus ahurissant que je ne le pensais, évidemment très globalisé, et donc en remontant cette petite route de la rose, je suis allé à Amsterdam, en fait, où ces roses transitent vers Alsmir, à côté d'Amsterdam, dans cet immense marché aux fleurs, et jusqu'en Afrique, puisqu'il faut savoir que ces fleurs sont cultivées la plupart du temps soit au Kenya, soit en Éthiopie. Voilà, pour l'immense majorité des roses qu'on consomme en Europe, pas que à la sauvette, hein, vraiment toutes les roses qui sont vendues, les roses coupées vendues dans la grande distribution ou chez des fleuristes, sont cultivées au Kenya ou en Éthiopie.
Comme beaucoup de fleurs. Alors, ouais. Du coup, ce roman Rose Nuit, Oscar Kopfan, se déroule autour de trois personnages ouais. qui vont reprendre chacun des volets que vous nous avez évoqués. Et moi, je voulais savoir justement quel travail documentaire vous aviez fait pour vous renseigner sur tout ce qui se produit autour des roses, parce que vraiment, on apprend, même si on sait, on apprend encore plus de choses en lisant l'ouvrage.
Ah bah écoutez, tant mieux, j'en suis ravi. Non, oui, le travail préparatoire, dirais-je, parce que effectivement, c'est vraiment un roman et j'ai voulu le traiter comme un roman parce que c'est mon biais d'expression, si je peux dire, même si j'aime beaucoup le reportage, hein, c'est pas du tout la question, mais voilà, mon langage, moi, se situe plutôt du côté d'un langage romanesque. Donc il y a vraiment trois personnages avec leur vie.
Oui, on va en parler.
Mais pour le travail préparatoire, je l'ai effectivement entrepris comme un travail d'enquête ou de journaliste ou de reporter ou voilà. Donc je me suis bêtement et très simplement rendu alors en Éthiopie plusieurs fois pour voir un peu comment ça se passait. J'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes qui travaillaient dans ces domaines-là. Donc en l'occurrence, sont la plupart du temps des femmes. Pas la plupart du temps, toujours des femmes qui sont cueilleuses là-bas, avec des conditions de vie, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais assez dramatiques. Et puis bon, bah voilà, j'en ai rencontré quelques-unes. J'ai rencontré aussi des hommes cette fois-ci qui mettent les produits. Et puis j'ai pu avoir accès à ces serres qui sont très fermées, secrètes, protégées, gardées par des types avec des kalachnikovs derrière des miradors. Et voilà, tout ça est assez clos. Mais en arrangeant un peu la réalité, c'est-à-dire que je ne me suis pas présenté comme un auteur voulant écrire sur ce sujet-là. Mmh. Je me suis fait passer pour un intermédiaire en leur disant que j'étais en Éthiopie pour business et que un de mes amis était dans les fleurs et que voilà, je faisais le pont entre pour lui tant que j'étais en Éthiopie. Et voilà. Et donc là, on m'a ouvert à grand les portes et donc j'ai pu avoir accès effectivement à ces serres, à ces usines en fait. Le sein de la main. Et puis même chose aux Pays-Bas, alors là c'est un petit peu plus facile d'accès parce qu'il y a même des visites touristiques du marché d'Alsmir, donc on peut prendre une visite guidée en bonne et due forme. Et là je me suis intéressé peut-être un peu plus à la ville en elle-même, mais j'y suis allé aussi plusieurs fois voilà, donc j'ai fait un bête travail un simple travail de reportage, quoi. Pour essayer de ne pas raconter de bêtises, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on doive nécessairement enquêter ou expérimenter pour écrire un roman, mais en tout cas moi celui-ci, en m'emparant de ce sujet-là, j'estimais que j'étais un peu obligé de le faire. Ouais.
Alors comme on l'évoquait il y a quelques minutes, Rose Nuit, c'est un roman, et qui dit roman dit personnage, et donc il y a ces trois personnages qui composent le roman, qui est donc trader de fleurs aux Pays-Bas, cet homme qui vend des roses à la sauvette, qui est sans papier, qui vient du Bangladesh, et puis cette femme qui va être embauchée dans ces serres de fleurs en Éthiopie. Et là où intervient le travail du romancier, c'est que vous allez donner corps à ces personnages, vous allez nous les rendre sympathiques ou antipathiques, et vous allez créer pour chacun d'eux une musique et une écriture particulière.
J'essaye en tout cas, ouais. Si ça marche, tu vois, ouais, c'est l'idée. Oui, bah c'est vrai que au-delà de, disons, des recherches dont on parlait, l'idée était quand même de parler des hommes et des femmes qui travaillent dans ces conditions-là et dans quelle mesure ça peut affecter leur corps mais aussi leurs esprits. Dans des boulots répétitifs et violents. Voilà, j'avais envie, si vous voulez, de traiter, alors c'est un grand mot de dire ça, mais de parler de la globalisation ou de la mondialisation, en tout cas du capitalisme et de l'économie de marché, mais par le biais de personnes qui le subissent, quoi. Donc oui, ce sont des personnages à part entière. Alors, ils ont leur activité, mais ils ont aussi d'autres choses que leur activité purement économique.
Que cette terre nous semblait vieillot, aujourd'hui il me semble nouveau. Et puis surtout, c'était toi et moi, ces deux mots ne vieillissent pas. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là. Ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là.
Celui qui est un petit peu différent, c'est quand même ce personnage de Yann, celui qui est donc aux Pays-Bas, qui a un parcours particulier, qui est, j'allais dire, qui fait partie des salauds ordinaires. Vous ne lui faites pas de cadeau à ce personnage, mais en même temps, il y a une forme de pitié vis-à-vis de lui. C'est un personnage qui a une vie de quasiment de mort vivant, qui a pas grand chose, qui effectivement va spéculer sur les fleurs. Il est chargé d'acheter au meilleur coût, mais il a un tel vide existentiel que c'en est pathétique. Alors comment il est né celui-là?
Je crois que c'est peut-être celui pour lequel j'ai eu le plus de mal à écrire au début et en même temps avec lequel je me suis le plus amusé. Je voulais pas en faire un gros méchant caricatural parce que les choses peuvent être un peu plus troubles et troublées. Voilà, je vous apprends rien en disant ça. J'enfonce des portes ouvertes, mais parfois certaines portes ouvertes sont vraies. Et donc voilà, l'idée n'était pas d'en faire un gros patron méchant. Et d'une certaine manière, même si il a des conditions de vie qui sont
matériellement confortables,
matériellement beaucoup plus confortables que Ali qui passe de terrasse en terrasse ou Nana en Éthiopie, voilà, qu'il a accès à quelque chose d'autre, ça c'est sûr. Et en même temps, pour moi, ce sont aussi des, enfin, en tout cas lui. Et un type qui est pris dans cette machine, quoi, dans cet engrenage aussi. C'est-à-dire qu'il devient, lui aussi, finalement, victime de tout ce gros système. Il est lui aussi broyé par le système. Alors, d'une autre manière, en tout cas, par exemple, sur son corps, c'est beaucoup moins violent que pour une personne qui bosse dans une usine, ça c'est sûr. Mais j'avais envie qu'il y ait quelque chose en lui où, effectivement, on puisse sentir ce malaise-là. Mmh.
Oui.
Même s'il est effectivement pas très sympathique, mais je voulais pas en faire un salaud total non plus.
Non, c'est vraiment un type qui est en permanence en décalage, il est toujours à côté. Vous le dites très bien, il a jamais pu s'intéresser à l'autre. Son seul souhait, c'est d'intégrer un groupe, d'intégrer un collectif, d'avoir ouais. une place. Et il est absolument incapable de relations individuelles. Ce qu'il veut, c'est une famille ricorée, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Oui, il aspire. Et ça me permettait, avec ces aspirations-là de Yann, d'enfoncer le clou, si je peux dire, sur parce que moi la grande idée du texte, c'était quand même que ces mondes étaient clos les uns aux autres, c'est-à-dire que ils se croisent, ils se frottent parfois, ils peuvent se cogner, mais finalement ils sont absolument hermétiques de la même manière que un vendeur de roses devant les terrasses ne pourrait même pas avoir l'idée de boire un verre en terrasse, c'est-à-dire que c'est des voilà, ce sont des mondes qui se croisent, mais qui sont fermés les uns aux autres. Et donc ces aspirations de groupe assez grégaire de Yann me permettaient de parler aussi finalement de la même chose, mais un petit peu autrement. Ouais.
Il y a deux choses qui émergent quand même. Alors pour lui, il y a une part de méconnaissance. Vous lui faites dire à un moment, il rentre sur son lieu de travail et vous lui faites dire qu'il ignore totalement de comment ça fonctionne en vrai. Il voit des choses, il les a devant les yeux, mais il est incapable d'imaginer ce qu'il y a derrière. Donc il y a une méconnaissance totale. Et puis il y a cette notion qui transparaît au travers du personnage d'Ali, dont on va parler dans quelques instants, qui est la notion du déterminisme et du fait qu'on ne peut pas sortir de sa condition, qu'on est vraiment, effectivement, ils sont chacun dans leur monde. Et comme le dit Ali, donc travailleur sans papier, on va en parler un peu plus longuement, mais ce qui est très clair, c'est que pour lui, jamais il ne pourra sortir de cet univers-là, jamais il ne pourra aller s'asseoir en terrasse et être celui qui achète la rose.
Oui, je suis évidemment très 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 malheureux, mais j'ai l'impression que ça fait partie aussi un peu de nos réalités, ouais. Yann, lui, ne veut pas voir, il préfère pas voir, et puis au fond, il s'en fout un peu.
Ouais.
Et oui, sur le personnage d'Ali, voilà, comme vous le disiez, quoi, il y a quelque chose de son rêve, son souhait maximum est de pouvoir peut-être un jour avoir une place de plongeur dans un resto, et donc les ambitions sont nécessairement différentes, mais oui, ça, je crois que je crois peu au mythe du self-made man, même si il y a peut-être certains exemples me donneront tort, mais même si je crois beaucoup à l'individu, je crois aussi qu'il y a une espèce de cloisonnement social tel que mais je le vois moi en écrivant des bouquins, c'est-à-dire que a priori si on sait écrire, on peut écrire, c'est peut-être plus facile quand, comme moi, on a eu la chance de naître dans une famille où il y avait des livres à la maison, et voilà, c'est ouais, on sortir s'extraire d'une condition quand on vit dans un système comme le nôtre, je crois que c'est très ardu. Ouais.
Et Ali fait partie de ceux qui, entre guillemets, on réussit. Et je m'y aime bien, entre guillemets, parce que lui, il a pu quitter le Bangladesh, il a réussi à arriver en France, il arrive à vendre ses roses et à envoyer un peu d'argent au Bangladesh. Mais ce qui l'a poussé à partir, là aussi, c'est tout ce qu'on fait subir au corps dans ses emplois absolument terribles, puisque sa femme, en gros, à longueur de journée, fabrique des t-shirts dans une usine, à tel point que rentrée chez elle le soir, elle continue d'avoir le mouvement du tissu qui avance sous la machine.
Ça c'est la vie d'usine. Moi, j'étais très surpris en parlant un petit peu autour de moi, les beaucoup de personnes ne connaissant pas ce milieu, mais comme moi, hein, je travaille pas dans une usine, hein, mais ont l'impression que ça n'existe pas, que ça n'existe plus, comme si c'était quelque chose de la fin du siècle dernier, comme si le travail d'usine répétitif avait disparu avec les technologies. Non. Alors oui, on le voit un peu moins, il y a plein d'usines délocalisées et tout ça, mais non, c'est absolument les mêmes dynamiques que je crois que j'ai lu récemment, je l'avais jamais lu, mais j'ai lu L'Établi récemment, qui
oui.
Je trouve un très beau texte là-dessus, et oui, il en parle très bien de ces mouvements qui,
alors moi, je l'ai vécu ailleurs, ça peut se faire
dans d'autres travaux, mais moi j'ai travaillé longtemps dans les cafés, et je me souviens, je rêvais que je séchais des verres, et je trouvais ça terrible en fait de même pendant le sommeil être habité par la tâche répétitive, quoi. En plus de l'aspect purement qu'abîme uniquement les corps, je veux dire, je pense que ça tord les esprits.
Disparu depuis des années. Comme un filon dans la faille, comme un manuscrit oublié. Ils ont retrouvé le travail. Il faut que tu bosses lorsque le jour se lève. Bosse. On attend la relève, basse, la montée de la fièvre, basse. Il faut que tu bosses, il faut que tu bosses pour conjurer le sang, basse, sous la terre dans les pores, basse, pour dépasser la mort, basse. Il faut que tu bosses. Aujourd'hui, c'est un privilège, mais ça ne me dit rien qui vaille. C'est une idée au fond d'un piège. Ils ont séquestré le travail. Il faut que tu bosses ton sourire carnassier, basse, totalement surbooké, basse, les réseaux d'initiés, basse, t'étais vraiment un employé. Modèle parfait pour la médaille. Multinationale enfilé. Ils ont revendu ton travail. Pour la survie, le cash. Basse. Pour faire partie du staff. Basse. Pour les bimbos, le Strasse.
Bosse.
Faudra que tu bosses.
Bosse.
Et qu'on viendra la fin.
Bosse. Bosse.
Allongé dans le sapin.
Bosse. Bosse.
T'auras plus besoin de rien.
Lui donc est venu en France. Il est en attente d'avoir des papiers. Il a déposé son dossier. En attendant, bah, il avait ses 2 mois de visa de tourisme. Et puis bah, maintenant, il sait très bien que s'il se fait prendre, bah, il est coincé. Donc il vit en grande banlieue. Avec d'autres Ali, parce que tout le monde s'appelle Ali, parce qu'on a aussi la nécessité de ne plus avoir d'identité, de ne plus se distinguer, de ne pas être soi. Et lui est vraiment, j'allais dire, au bas de l'échelle
ça, c'est effectivement ce que j'ai pu un petit peu observer en rencontrant certains de ces hommes-là. Il y a une hiérarchie. Alors, c'est pas une mafia organisée. Hein. C'est-à-dire que des types qui dispatchent des vendeurs de roses comme ça. Bon. Mais en tout cas, pour les roses, à Paris, hein, je veux dire à Paris, comme il y a une certaine tolérance de la part des flics, on les emmerde pas trop, parce que je pense que c'est aussi le symbole de la fleur, que économiquement ça représente quelques dizaines d'euros grand maximum par soir, et que c'est pas un réseau institué. Mais donc ce qui est terrible, c'est que en fait ces hommes-là viennent parce qu'on leur a dit, il y a eu longtemps des accords en fait de réfugiés politiques pour les hommes venus du Bangladesh. En France, il se trouve que le statut maintenant est de plus en plus difficile à obtenir. Donc, eux espèrent avoir ce statut-là parce que ça donne lieu à des droits et quelques aides, même si elles sont assez minimes. Et au sein en fait de la communauté, il y a une vraie hiérarchie entre ceux qui ont leur papier et ceux qui ne l'ont pas. Et ça, je m'en doutais peu. Et en le découvrant, j'ai été assez frappé de voir que en fait, au sein même de cette ligue, il y avait des vraies catégories. Donc ceux qui font les roses sont ceux qui sont plus en bas de l'échelle, ceux qui font les fruits et légumes à la sortie des métros, eux en général ont un titre de séjour parce que justement ils sont beaucoup plus emmerdés par les flics, donc ils pourraient pas se le permettre sinon, dans leur cohabitation il y a une vraie hiérarchie qui se crée et très souvent les vendeurs de roses, c'est eux qui vont faire le ménage par exemple dans les chambres où ils vivent à plusieurs. Et voilà, il y a quelque chose de d'instauré comme ça qui est assez assez perturbant, ouais, et très dur et très violent, quoi. Ça plus les chaînes familiales, parce que ces hommes-là sont redevables auprès de leur famille et de leur vie d'avant, si je peux dire. En général, on s'est cotisé pour qu'ils puissent y aller, donc là il faut entretenir la baraque, quoi. Et oui, il y a cette violence là aussi de.
Oui, et ce qui est intéressant, Oscar Kopfan, dans Rose Nuit, paru chez Grasset, c'est que justement vous détaillez l'importance, j'allais dire, du matériel au travers d'objets que nous ne remarquons plus. C'est-à-dire, effectivement, quand l'un d'entre eux se barre avec une bouilloire, et comment cet objet ordinaire peut avoir une importance. Le fait de aussi, pour Ali, l'importance du téléphone, parce que c'est le seul lien qui lui reste avec sa famille. C'est qu'il ne voit que sur un écran cassé de téléphone par WhatsApp, son rêve d'avoir un scooter comme il en avait là-bas quand il était au Bangladesh. Donc toute cette mythologie objectale qu'on n'imagine pas.
Oui, j'ai essayé de travailler un petit peu aussi sur ces ses aspirations par le biais de certains détails. Les objets, je crois, peuvent avoir une importance. Enfin, en tout cas, moi, me permettent dans l'écriture romanesque, disons, de fixer certains points de détail qui sont, je l'espère, significatifs.
Oui, et peut-être plus parlant qu'un long discours.
C'est ça. Ouais, mais parce que comme je le disais, c'est ça que j'aime beaucoup dans le roman. Si vous voulez, moi, ça me permet de. Je suis pas là pour donner des réponses ou des solutions. Je suis pas éditorialiste, je suis pas politique. Mais ça permet effectivement de soulever quelques questions sans y répondre en fait. Moi j'aime ça dans le roman quand je vais lire des romans en fait j'ai pas envie qu'on m'explique tout, j'ai pas envie qu'on me donne tout clé en main quoi. Donc j'essaie de le faire aussi dans mon écriture parce que je crois que c'est une certaine humilité de nécessaire. Le rôle de l'écrivain n'est pas nécessairement d'apporter des réponses, mais peut-être parfois de procurer quelques sensations et donc quelques questionnements. C'est sûr, et quand on décide d'écrire sur un sujet comme celui-ci, je suis loin d'être le premier. Je pense qu'on a effectivement un peu ce devoir-là, un peu comme s'il y avait une éthique de la littérature là-dedans. Mmh.
On va aborder.
En tout cas, moi, j'envisage le boulot de l'écrivain comme ça.
Oui, je le comprends tout à fait. Et ça se ressent également au travers du troisième personnage qu'on va aborder maintenant, qui est ce personnage de cette femme en Éthiopie, où j'allais dire, vous faites là un long préambule avant de l'emmener sur les lieux des roses. Et ça m'a intéressé aussi comme démarche d'écriture parce qu'on est dans un tempo différent par rapport aux autres. Les autres sont en plein dedans dès le départ. Et pour Nana, c'est différent. On repart de son enfance auprès d'un lac vert. Et on part du fait que cette jeune fille et cette jeune femme a toujours eu un mode d'appréhension du monde un peu différent des autres.
Oui, effectivement. Je te tiens, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça immédiatement pour elle, mais ça me paraissait évident dans ce que je voulais décrire de ce personnage-là, en fait. J'avais envie d'y mettre un petit peu autre chose et donc et ces quelques souvenirs d'enfance m'ont permis de le faire. Ouais. Ça a pas été, ça a pas été une décision. Je me souviens pas d'un jour me dire ah oui donc pour elle je vais. C'est assez naturellement. Mais aussi parce que et puis cette partie-là je l'ai écrite là-bas en fait donc c'est peut-être pour ça que j'étais imprégné de ces ambiances de ce pays que j'aime tant. Et puis, encore une fois, je me suis aperçu de certains décalages. C'est-à-dire que la première cueilleuse que j'ai rencontrée, donc je bois du Fanta, qu'elle buvait un Fanta dans une espèce de petit café. C'est des choses avec de la tôle et voilà. Et je discute avec cette femme qui avait une élégance comme ça, voilà, qui était vraiment très, très chic. Et au bout d'un moment, je lui dis, ah, mais donc je lui pose plein de questions sur son boulot parce que j'avais besoin de détails, en fait, comme ça. Donc je lui dis, mais est-ce que vous avez des gants, des blouses, des machins? Et au bout d'un moment, je lui dis, mais il vous plaît, votre métier, quoi? Et puis là, elle me regarde, mais vraiment, avec une incompréhension totale. Et on me dit, c'est pas la question d'un métier qui me plaît ou pas. On n'est pas du tout dans ces logiques-là, quoi. Et là, je me suis aperçu de mon propre décalage aussi. Mmh. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est pas un métier qui lui plaît. C'est déjà un moyen de subsistance. Mais non. Et en fait, elle n'a même pas compris ma question, quoi. Mmh. Et je me suis aperçu, effectivement, de la bêtise de ma propre question. Et voilà, ces rencontres-là sont toujours assez frappantes, nécessairement. Ouais. Et pour revenir au personnage et à son enfance, ouais, je trouvais que ça lui allait bien, je trouvais que c'était nécessaire pour elle. Je la voyais un peu comme ça.
Oh. drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say
Elle est touchante parce effectivement on la découvre en amont, on la découvre dans une temporalité différente, on la découvre dans une position différente aussi par rapport au monde. Elle n'est pas dans le monde, elle est tout le temps en retrait, elle est dans ses pensées, elle a une forme de nostalgie qui est très présente, elle a une forme de... Ouais, elle est en décalage d'emblée et elle va faire des études et elle va avoir une vie avant, une vie qui va la structurer, et elle va se retrouver dans ce travail un peu par défaut sans savoir vraiment ce qui l'attend en plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de, là encore il n'y a pas de discours, il n'y a pas de, voilà, elle fait ce travail parce que les autres femmes le font et qu'il faut qu'elle gagne sa vie, que ses études de comptable ne lui ont pas permis de trouver du travail, qu'elle ne se voit pas partir à Addis Abeba, qu'elle n'a pas envie de ça, parce qu'elle n'est pas, elle non plus, c'est un petit peu comme Yann, mais différemment, elle ne fait pas partie du groupe non plus.
Oui, effectivement, elle a quelque chose à côté. Après, sur les études, c'est quelque chose que j'ai observé là-bas, parce que le système scolaire éthiopien, peut-être par héritage communiste ou que sais-je, en tout cas, effectivement, il y a un système scolaire qui est assez développé. Et puis après, donc beaucoup de personnes suivant ce cursus scolaire-là vont faire des études supérieures. Et en fait, le problème, c'est juste qu'il n'y a pas de boulot. Donc, on m'avait donné des chiffres que j'ai oublié malheureusement, mais qui étaient, l'écart était dingue entre le nombre de personnes qui sont formées pour revenir à la comptabilité, par exemple, qui sont formées à la comptabilité tous les ans là-bas, pour un dixième de toute façon de poste à pourvoir tous les cinq ans, quoi. Donc, ce sont des gens qui sont diplômés, qui sont éduqués et qui n'ont pas d'autre choix que de que se tourner vers un travail d'usine, ou alors aller tenter de faire quelque chose dans une capitale qui ressemble à beaucoup d'endroits à une sorte de bidonville géant. Et voilà, et comme l'agriculture disparaît peu à peu, que ces jeunes personnes n'ont pas nécessairement envie aussi de vivre dans les conditions des villages où bah il y a pas d'eau courante, il y a pas d'électricité, et on va chercher la flotte avec des objets, voilà, finalement, les solutions économiques immédiates sont souvent des travaux de ce type-là, qui ne profitent jamais aux Éthiopiens et à l'Éthiopie, évidemment, mais à des propriétaires hollandais ou indiens, la plupart du temps.
Oui, donc elle va se retrouver embauchée. On va lui donner un beau tablier bleu, qui est la seule protection qu'elle a, pour travailler dans les serres, et elle va se retrouver à devoir tailler des roses de manière... C'est un avant-goût de l'enfer, en fait, la manière dont vous décrivez le travail de cette femme.
Bah, ça l'est, effectivement. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est... voilà, donc alors les serres sont gigantesques, pourries de tous les produits chimiques possibles et imaginables, parce qu'il y a très peu de contrôle, en fait. Donc il y a des normes européennes qui sont différentes d'ailleurs des normes pour le marché asiatique, mais qui sont pas respectées, en fait. Moi, les patrons des serres me le disent très clairement, de toute façon on n'a pas de contrôle, donc voilà. Et donc les personnes qui travaillent là-bas, alors il y a tout ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il fait une chaleur insoutenable, même s'ils sont dans des coins, en Éthiopie en général il fait à peu près 27 degrés toute l'année, mais là en fait sous les plastiques, les bâches en plastique des serres, on imagine quand voilà, et puis en fait les fleurs pour pousser à ces cadences-là ont besoin de ça. On utilise toute la flotte qu'il y a autour, donc il n'y a plus aucune agriculture. Voilà, on pourrit les terres évidemment avec tous ces produits, et on abîme les corps. Moi, toutes ces femmes me disaient avoir, en plus des mots, j'allais dire classiques, de des boulots d'usine répétitifs, de mal de dos et tout. Voilà, en plus effectivement s'ajoute à ça tous les produits. La plupart me disaient qu'elle voyait très mal, et ça se joue très vite. C'est une cueilleuse, une des premières que j'ai rencontrées, elle me disait, bref, je lui expliquais que je lui posais ces questions-là pour essayer d'en écrire un bouquin, et elle me disait, ah oui, mais moi j'adorais lire, mais je peux plus, enfin, mais je ne lis plus. Je lui dis, ah, mais pourquoi vous avez plus le temps, ou pas les moyens, ou voilà. Je lui demande, elle me dit, ah non, mais c'est parce que je vois plus bien, en fait. Et elle avait 23 ans, et ça faisait un an qu'elle travaillait là-bas, quoi. C'est, donc oui, les corps sont vraiment littéralement broyés. Et les travaux sont, bah, alors il y a différents domaines, hein, comme dans toutes les usines, mais donc voilà, il y a ces femmes qui coupent, en fait, qui cueillent avec un sécateur, et en général une sorte de grand panier posé sur le bras gauche, des fleurs toute la journée. Alors elles ont chacune leur rangée. Et après il y a une partie plus qui esthétiquement, visuellement ressemblerait plus à une usine à la chaîne, où là c'est des postes de trois personnes. Là encore, ce sont que des femmes l'une va enlever les quelques épines et les feuilles, l'autre fait des bottes, et la troisième empaque dans des cartons, parce que c'est emballé après, ouais. Voilà, et donc là ça ressemble plus à une usine à la chaîne, un travail à la chaîne, si je puis dire. Mais oui, ce sont des... Alors, on appelle ça des fermes de roses, mais ce sont littéralement des usines. Des usines gardées, voilà, avec des contremaîtres armés. Ouais, l'ambiance n'est pas très rigolote, quoi.
Alors, ouais. Nos auditeurs, quand ils liront le livre « Rose nuit » d'Oscar Kopfahn, paru chez Grasset, découvriront donc tout le mécanisme et tout ce... comment ça se passe dans ces différents endroits. Mais juste une anecdote pour donner une idée un petit peu de... j'ai dire du caractère complètement corrompu du système, c'est la prime de lait. C'est le fait que certains ont droit à une prime, à de l'argent supplémentaire, alors qu'ils ont déjà un salaire ridicule. On va leur donner quelques dollars de plus pour acheter du lait pour pas qu'ils n'aient de cancer.
C'est ça. Alors ça, ce sont les hommes qui mettent les... Parce que c'est très genré. Hein. Donc voilà.
C'est phytosanitaire, oui.
Les femmes cueillent et les hommes aspergent. Et donc, oui, tous les hommes qui travaillent, mais ça, c'est commun à toutes les fermes, donc qui, eux, mettent les produits, donc sont théoriquement en première ligne, quoi. Cette exposition, ils ont très peu de protection. Alors, dans certaines fermes, ils vont avoir des masques, parfois des gants, type gants pour faire la vaisselle, quoi, et des bottes. Et puis, alors là, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de législation, mais bon, ils sont, de toute façon, c'est très peu, voilà, ils sont très peu protégés, si vous voulez. Et oui, on leur octroie. Alors, dans certaines fermes, c'est donné immédiatement 1 demi-litre de lait par jour. Et dans d'autres, ils ont un petit subside supplémentaire qu'ils sont censés utiliser pour acheter du lait. La plupart ne le font pas parce qu'ils ont de l'argent supplémentaire. Oui. Voilà, il faut vivre. Mais oui, c'est leur protection est celle-ci, instaurée par. Et moi, les hommes me disaient, ah oui, c'est vrai que là, je bois pas trop mon lait en ce moment, parce qu'en fait, je n'ai pas le choix économiquement. Et donc, ils disaient qu'ils allaient moins être protégés, quoi.
Ouais, c'est complètement pervers.
Ouais,
vous découvrirez tout ça en lisant Rose Nuit. C'est paru chez Grasset, c'est d'Oscar Kopfan. C'est vraiment un livre à découvrir. Merci en tout cas de nous l'avoir donné à lire. Et la question traditionnelle dans cette émission, c'est de savoir si vous avez déjà des projets.
Si j'ai déjà des projets?
Oui, pour un autre.
Ah oui, je suis en train de finir un bouquin là, mais j'ai quelques petits soucis narratifs de la toute fin, mais voilà, donc celui-là est presque terminé, et puis j'en entame un autre. Là, j'ai besoin de faire un peu plus de recherche, qui va être un peu plus long. Ouais, je dois aller fouiller des archives britanniques.
Ah,
ça va être.
Ah, ça intrigue. Merci en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Et donc lisez Rose Nuit parce qu'après on regarde les roses de manière complètement différente. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire. C'était Oscar Kopfan qui nous parlait de son roman intitulé Rose Nuit, paru chez Grasset. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Léna Garre. Léna Garre qui a écrit un étonnant premier roman intitulé Tumeur ou Tutu en simplement 3 mots. Ce roman, il est paru aux éditions Verticales et on va en savoir plus dès à présent. Voici Léna Garre pour Tumeur ou Tutu Verticales. Pour Radio Libertaire, 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et Débats qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Léna Garre pour un premier roman. Alors on aime bien les premiers romans dans cette émission. Premier roman qui s'intitule Tumeur ou Tutu et c'est paru aux éditions Verticales. Et c'est un vrai bonheur parce que, comme je l'évoquais, on aime bien recevoir les primo-romanciers, comme on dit maintenant. Et particulièrement... Moi, j'ai été touchée par ce livre dans sa singularité. C'était un vrai bonheur de découvrir quelque chose d'un peu différent et qui fait du bien. Alors, pour donner une idée, déjà, on va préciser pour nos auditeurs qui ne voient pas le livre que Tumeur ou Tutu, ça s'écrit T-U-M-E-U-R ou T-U-T-U. Voilà, donc ça donne un peu une idée déjà de l'originalité du livre. Alors, bon, question traditionnel qu'on a dû vous poser 150 000 fois. Comment il est né, ce livre? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que vous avez déjà écrit d'autres choses avant? Ce choix d'écriture? Enfin, tout ça, quoi.
Non, alors, pas 150 000 fois, rassurez-vous. Alors, c'est vraiment le premier, mais je suis familière de la matière écrite, puisque j'ai une formation en édition et en correction, surtout. Donc, pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de réécriture sur les textes d'autres. Donc, trancher et aller à l'épure, c'est quelque chose, une pratique, j'imagine... j'ai acquises pendant mon travail. Mais c'est vraiment la première fois que je fais un livre et la dernière.
Ah bon?
Ouais, c'est pas du tout un projet de vie pour moi. Enfin, je suis extrêmement heureuse qu'il existe. Mais je me suis jamais imaginé écrivain et je trouve que ça n'a pas de sens de projeter une carrière d'écrivain. Donc, actuellement, c'est la seule chose que j'avais à dire. Et
Pour l'instant,
après, ça m'a pris 6 ans, j'en ai 34. Donc ça fait quand même, il y a pas mal de maths dans ce livre, quasiment un jour sur 5 de ma vie. Pour moi, c'est pas ce que je me souhaite si j'ai pas le choix. C'est pas de la posture, hein. Si j'ai pas le choix, je m'y remettrai. Mmh. Mais je préfère la vie et la parole à l'écriture, au silence, à cette difficulté-là. J'admire énormément les gens qui en font 2, 3, 4, 5, 6. J'ai vraiment, j'espère que la nécessité va pas me retomber dessus.
Alors c'était quoi? C'était quelque chose de cathartique, l'écriture de ce roman? C'était
oui.
C'était quoi l'intention de départ?
Alors c'est un bricolage artisanal de A à Z. Hein. Il n'y a pas d'intention jamais, et j'ai compris le mot que je cherchais parce que donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est habitée par une monstre qui n'a pas de nom, que personne ne voit. Et elle est persuadée que c'est uniquement en trouvant le mot pour désigner cette monstre à l'intérieur
d'elle, l'importance de nommer
dans
les choses,
langage, voilà, qu'elle pourra se libérer. Donc on peut dire que c'est une sorte d'enquête lexicale parmi les mots des autres pour trouver le nom de ce mal-être que personne ne semble identifier et qui la colonise, qui l'obsède. Et donc c'est... Dans mon expérience d'écriture, c'est une quête sincère pendant 6 ans où j'ai vraiment cherché ce mot et que j'ai vraiment trouvé. Voilà, il y a un petit peu moins d'un an, enfin, quand enfin ce livre a été fini, mais Dieu merci, ça n'a pas mis 10 ans de plus, mais ça aurait pu parce que je cherchais sincèrement. Donc, c'est pour répondre à votre question de l'intention. Il n'y en avait pas parce que je ne savais pas du tout si j'allais finir par trouver quelque chose, ni même si ça existait vraiment, en fait, ma problématique. Et puis en fait si, et ça a donné un sens rétroactif à tout, ça c'était un moment assez magique. Mais disons le fait que j'ouvre un document Word pour me mettre là-dessus, oui, à la base c'est une période de très grande dépression, enfin, mais plus que ça, une espèce de désarroi existentiel intime. Quand j'avais 27 ans, où je travaillais, j'avais un appart et tout ça, mais là, il y a eu 2-3 accidents consécutifs dans ma vie, et là, tout a perdu sens et tout s'est inversé. Et donc, j'ai comme perdu confiance dans le langage. Alors pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Parler, exprimer, tenter de comprendre, s'écouter, et tout ça. Enfin, la parole est vraiment au cœur de ce que je trouve le plus beau dans l'humain, enfin, et le plus nécessaire. Et là, il y a quelque chose qui s'est complètement effondré de l'ordre de ma confiance dans les mots, en fait. Là, je parle dans la vraie vie. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et commençait à tourner autour de cette idée qu'il doit me manquer un mot pour expliquer ce qui se passe. Et l'idée, enfin, c'est même pas une idée, hein, franchement, c'était une question de survie à ce moment-là, de reprendre des études parce que j'étais complètement décadrée, vraiment, ça allait pas du tout. Et donc, d'intégrer le master de création littéraire. Alors là, on dirait que c'est parce que je voulais faire un livre, mais non, c'est pas ça. C'est que je voulais travailler sur le rejet dans l'oralité. Les stigmates de violence, en fait, dans la parole. Comment ça se traduit dans la manière de dire. Et donc, je m'étais dit, je vais faire de la linguistique. J'ai jamais fait de linguistique du tout. J'ai fait plutôt... des maths et de l'écho et tout ça, enfin plutôt des matières je chaud comme on dit d'ailleurs. Et
les sciences dures.
Voilà, les sciences dures, c'est ça. Mais pas du tout de lettres, ni de bac littéraire, pas du tout du tout. Mais là, je me suis dit que j'avais envie de chercher. Je sais pas, il y avait un truc complètement à la fois obsessionnel et flou autour de ça, de l'oralité malade. Et donc j'ai cherché le. Je voulais faire un mémoire de recherche. Bon, que j'aurais jamais pu faire puisque j'avais pas de licence, mais bon, j'étais loin dans ma tête à ce moment-là. Et il fallait un maître de mémoire, un tuteur, et donc j'ai cherché le mail d'Olivia Rosenthal, dont j'admirais énormément le travail depuis des années.
Parce que je savais qu'elle... de nombreuses fois dans
c'est
cette
vrai
émission.
Oui. Gloire à elle. Et bah, je savais qu'elle était prof à Paris, et donc je voulais qu'elle me. Pour moi, elle était prof de lettres. Que j'avais vu sur une quatrième de couvre, quoi. Et du coup, je voulais lui demander si elle voulait bien s'occuper de mon mémoire complètement flou, là. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le master de création littéraire existait. Et c'était dans un mouchoir de poche, puisqu'il fallait rendre les dossiers 2 jours après. Et moi, j'avais plus d'appart, j'étais chez ma meilleure amie, enfin, c'était vraiment la catastrophe. J'étais dans le noir toute la journée, enfin, depuis des mois. Donc, toutes mes affaires étaient dans un box au fin fond de Paris et tout. Donc, j'ai dû aller chercher tout ce qu'ils demandaient pour le master et tout ça, parmi les cartons, les machins. Et fournir les 10 premières pages de mon livre, qui sont la demande du master de création littéraire. Et c'est là-dessus que vous êtes reçus, quoi. Enfin, du moins admissible à l'oral, mais j'avais absolument pas de livre. Et encore moins l'envie d'en faire un. Mais je sais pas, c'était ma lumière dans la nuit, là. Olivia Rosenthal, je me disais, le travail de cette femme, elle va peut-être pouvoir comprendre ce que j'essaye de formuler, moi. Et donc, ma seule obsession, c'était d'être dans une pièce avec Olivia Rosenthal. Voilà, voilà, c'était que à ça que je pensais. Et donc, j'ai écrit ces 10 pages, là, complètement sorties nulle part, assez pas travaillées, d'ailleurs, peu travaillées. Et puis, j'ai envoyé, et puis j'ai été prise. Et donc, c'est parti pour cette aventure. Voilà, ça, c'était en 2017. Donc,
D'accord.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no faith, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, my blood.
Et donc là, bah, on a un livre qui est publié chez Vertical, qui est signé Les Nagars, qui s'appelle « Tumeur ou tutu », et où les mots, justement, et l'absence des mots ont leur importance, puisque c'est une espèce de quête qui va se dérouler dans tout le roman. Mais il y a aussi, j'allais dire, le pendant, qui est que quand on n'a pas les mots ou quand on n'arrive pas à verbaliser les choses, eh ben, on peut aussi en inventer. Et donc, on découvre ce personnage, la narratrice, en trois, donc elle a 3 ans. Et la monstre vient de la coloniser, de l'envahir. Et à partir de ce moment-là, elle va partir à la recherche de son nom. Mais elle va nous décrire aussi sa vie au quotidien. Et sa vie au quotidien, c'est celle d'une petite fille qui a un demi-frère et un petit frère, qui a donc un père et une mère. Mais ils ne sont pas appelés comme ça. À chaque fois, ils ont des surnoms. Et j'aimerais bien qu'on parle du choix que vous avez fait pour les nommer. Donc il y a cette famille, il y a des lieux, parce que la géographie sensible est très très importante aussi dans le livre. Ça repose beaucoup sur... on est à hauteur de ce personnage, et tout le temps du livre, on va la voir comme ça évoluer.
Ah, génial, merci de ce que vous dites. Alors, on commence par quoi? Parce que c'est super riche.
Allez, on commence par le choix des surnoms, par exemple.
Ok. Alors, moi, je me suis retrouvée dans le geste d'écriture. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'idée sur l'histoire de ce livre. Heurté aux vrais mots qu'on emploie quotidiennement dans le langage, parce que ça contenait un sens complètement éculé, enfin que je ne pouvais pas faire changer dans la tête des lecteurs. Maman, papa, maison, famille, et tout ça, c'est tellement chargé, ça interdit tellement plein de choses en fait dans son contenu, non ? Contenu, que je ne pouvais pas utiliser des mots comme ça parce que ça ne pouvait pas illustrer l'étrangeté que ressent cette narratrice depuis... Alors, c'est drôle, vous dites que le monstre arrive à l'endroit, la monstre. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le langage
qui apparaît
à l'endroit et que là, elle se dit « Oh putain, il y a peut-être un moyen, sans doute pas putain d'ailleurs à ce moment-là, mais de... ben voilà, d'interagir avec l'autre pour parler de ça. Et comme ben précisément, elle a l'air d'être une petite fille normale, que tous les petits enfants autour d'elle ont le même âge, ont l'air contents avec leurs frères, sœurs, parents, etc., que tout le monde a l'air de pouvoir jouer et tout ça, et qu'elle se sent complètement à côté de ça. Et que tout le monde... elle a le sentiment, mais ça, je l'ai joué un peu volontairement, mais comme la paranoïa des enfants, comme elle est complètement mégalo comme tous les enfants.
Normal. J'ai
l'impression que c'est le monde entier qui fait exprès de ne pas parler de son mot qu'elle cherche. Et à aucun moment que c'est elle qui n'arrive pas à verbaliser sa quête. Et donc, c'était pas possible d'employer des mots dans lesquels des lecteurs éventuels pouvaient projeter des sens ou des images. Les parents, ils auraient jamais pu s'appeler papa et maman, mais pas non plus
par leur prénom.
Corinne, oui, et ouais, voilà, ça. Parce que je voulais pas qu'on se figure quelque chose. Et pareil pour les frères, parce que des prénoms, c'est des choses qu'il y a.
C'est tellement connoté, donc.
Voilà, et puis il y a des milliers de personnes qui portent un même prénom. Alors moi, je voulais vraiment qu'il soit totalement unique, comme il était dans la tête de la narratrice. Et pareil sur les lieux, sur les groupes de gens qui ont des formes de langage bien à eux, comme un peu les prémices d'une équation qu'elle mettra en place plus tard. Mais voilà, elle résonne par éléments d'humanité, cette narratrice. Et donc elle ne peut pas différencier... voilà. Moi, en tant que personne qui écrit ce livre, je ne pouvais pas utiliser tous les mots normaux. J'étais bloquée par ça. Donc, ce n'est pas un exercice de style. C'est parce que vraiment, intimité, qui est intimité dans ce livre, l'intimité, pour moi, renvoyait à quelque chose déjà de doux dans le langage et puis de... un peu simple. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu quasiment synonyme de tranquillité, j'ai l'impression.
De sécurité, en tout cas.
De sécurité, ouais.
Ce qui n'est pas le cas, là.
Dans l'impensé...
collectif.
Ouais,
oui.
Voilà. Alors, c'était pas du tout voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire le précipice et cette espèce de truc sans fond, le précipice, donc qui devient intimement cité parce que elle, ça la noie, son intimité.
D'autant plus important que, j'allais dire, les mots ordinaires, eux, sont des véhicules de violence. Parce que vous évoquiez les nagars, la violence. Ben, la violence, elle est extrêmement présente et elle se loge justement dans le vocabulaire utilisé par la mère, dans cette violence au quotidien, dans cette dévalorisation, dans ces humiliations, dans les mots sont terribles dans sa bouche à elle, et elle les sort de manière, j'allais dire, diarrhéique.
Ouais, oui, je suis d'accord avec tout le monde. Oui, oui, et puis en plus, il y a quelque chose de... Donc, la narratrice, au début, les reprend à son compte, c'est-à-dire que par le discours indirect, en fait...
Oui, elle
ça
joue.
Permet
elle
de,
joue
ouais. Voilà, ça permet à la... De montrer, je pense, au lecteur que la narratrice du coup, s'auto-qualifie comme, comme la mère la qualifie, tout en faisant passer le lexique en fait, de la mère. Parce que pour moi, bah, déjà, il n'y a aucun dialogue dans ce livre, volontairement, parce que la narratrice ne parle pas. Hein. Enfin, elle parle beaucoup à l'intérieur, ouais. Mais aussi parce que...
Parce qu'on ne l'écoute pas.
Je trouve qu'une même phrase de Novatchok, donc la mère, ne rendrait pas du tout la même chose au bout d'un tiret, que ce qui est extrêmement violent dans la maltraitance infantile, l'humiliation, donc pas la maltraitance au sens des coups, de l'inceste, et cette violence verbale et psychologique, c'est justement cette infusion que ça a dans la tête des enfants et comment en fait ça vient transformer, même pas transformer, en fait créer, construire leur propre regard sur eux qui est extrêmement dénigrant. Et la mère, elle s'adresse qu'au tu, en fait, elle dit jamais je, donc voilà, c'est que des
mantras. De,
ouais, voilà, exactement. À une petite fille qui, en tout cas, au début. A rien fait ni dit, enfin elle est juste petite, donc évidemment qu'il y a une relation de miroir, etc. Et donc c'est ça moi qui m'intéressait. Je dirais que s'il y a une idée générale que je veux faire passer dans ce livre, c'est comment la violence verbale se reproduit justement au-delà de l'empathie que peut inspirer cette petite fille. Pour moi, c'est qu'à la fois, on comprenne au début comment elle se regarde, comment elle se nomme, comment elle se juge, etc. Et comment, évidemment, quand elle va partir de sa prison, comme elle appelle sa maison, où là, comme pour tous les enfants qui souffrent, on se dit « ça y est, c'est fini ». Et en fait, c'est là que les ennuis commencent, quasiment. Parce que justement, le mal n'est plus présent en tant qu'entité physique. Mais voilà, c'est là qu'on prend la mesure voilà, de tout ce qu'il est dedans. Et qu'évidemment, quand il va s'agir de faire foyer,
ça va pas
le naturel, il revient au galop. Ouais, et c'est une vraie réflexion à laquelle je n'ai pas de réponse. Tu meurs ou tu tues, le jeu, il est là-dessus aussi. Donc tu meurs ou tu tues ou tu meurs ou tu tues, c'est aussi est-ce qu'il y a une troisième voie pour la violence que de la reproduire en l'adressant dans l'intime aux autres ou de la contenir et donc de se
d'en souffrir
et voilà, et c'est une vraie question hein, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais ce qui est problématique dans ces enfances là, dans ces foyers là, c'est que c'est pas comme se faire agresser dans la rue, ou c'est pas une
pas.
Violence. Oui, et puis même, ce n'est pas vécu comme
étant
anormal.
Violent.
Ouais, ouais. Et donc ça construit réellement, ça, c'est pas un vice de forme. C'est comme ça que le langage s'élabore en fait dans la tête de ces enfants-là. Et ça, c'est pas qu'une question de déconstruction, c'est qu'après, les mots qui sont beaux sont vidés de sens, enfin, ça marche pas non plus.
Alors, du coup, les nagars, dans « Tu meurs ou tu tues », ce roman qui est paru chez Vertical, elle va tenter une voie, j'allais dire, parallèle, qui est la voie du langage mathématique. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que quand on n'arrive pas à nommer les choses, quand on n'arrive pas à montrer et démontrer, eh ben, les mathématiques, c'est parfait pour ça.
On est bien d'accord. Enfin, je ne sais pas si vous aimez les mathématiques. Oui. Ah, génial. Bon, bah donc vous comprenez, parce qu'il y a aussi plein de personnes qui ça rend. Qui sont très hermétiques à ça. Bah oui, moi je suis étonnée que tout le monde ne trouve pas ça extraordinairement réconfortant et apaisant. Cette logique complètement implacable et d'une mauvaise foi absolue.
Il n'y a pas de problème d'interprétation,
voilà, c'est ça. Tout le monde est d'accord sur ce que veut dire 2, sur ce que veut dire X. Exactement, il n'y a pas de problème d'interprétation. Et tout rentre dans tout. On peut créer des inconnus pour les choses qui n'ont pas de nom et tout ça. Et donc, d'un point de vue du modèle, c'est extraordinairement apaisant pour l'esprit. Et oui, en effet, je ne sais pas comment font les personnes qui n'ont pas les mathématiques quand ils se heurtent à des questions auxquelles ils ne savent pas répondre. Parce que moi, c'est vrai, moi en tant que personne, c'est vraiment une manière de penser que j'ai qui m'amène, si ce n'est un résultat convaincant, au moins à extraire des hypothèses, en fait, vraiment comme est la philosophie mathématique. Et la narratrice qui donc justement vient de quitter sa prison et se dit ça y est la liberté et tout, en fait assez rapidement tombe dans l'alcool, l'autodestruction, etc. Et tout, dans cette obsession sans doute elle avait imaginé qu'elle allait se libérer en partant et puis en fait pas du tout, et donc là elle se dit merde, le problème vient d'ailleurs, et donc là d'elle, donc son problème d'humanité. Et là, elle va commencer à modéliser grâce aux maths qu'elle apprend dans ses études.
Est-ce qu'elle appartient, est-ce qu'elle fait partie de l'humanité?
Est-ce qu'elle fait partie de l'humanité, puisque personne ne semble. Mmh. Et d'ailleurs, d'un point de vue strictement mathématique, non. Voilà. Je l'ai démontré.
C'était montré, oui. Oui, il y a la question du bonheur aussi.
Absolument. Et de la responsabilité. Oui. Oui, bah, en termes d'inclusion, au sens mathématique, non, elle n'est pas incluse dans l'humanité.
Les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Alors, elle va effectivement, on va laisser les lecteurs découvrir un peu son chemin, mais elle va également faire ce chemin vers les mots, parce que en parallèle de son amour pour les mathématiques, elle va travailler, elle va s'installer, elle va vivre en couple, et tout va tourner justement autour des mots. Alors, il y a la recherche du mot perdu, mais les mots deviennent son univers aussi.
Oui, oui, bah, je crois que tant qu'elle n'est pas arrivée à son mot, en fait, de toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Et dans la même logique que celle des maths, finalement, il y a ce côté infini dans les mots qui fait que, bah, déjà, il y a quand même un certain nombre de mots dans un certain nombre de langues qu'on peut combiner de mille manières, des expressions qu'on peut apprendre à travers les autres, etc. Et puis, on peut aussi tordre les mots. Donc, ça lui semble l'espace le plus large pour toujours essayer d'arriver au sien, en fait, disons, voilà. Et en plus, du fait de son obsession, il se trouve qu'elle en connaît beaucoup des mots. Donc, en fait, quand il s'agit de financer sa vie et d'être autonome financièrement, assez naturellement, elle va essayer de se diriger vers ces métiers-là et donc rencontrer des personnes qui sont aussi à tourner autour de ce truc vertigineux qui est le langage. Et malgré ça,
ça va
pas l'aider à tout élucider en termes de construction intime, quoi, justement, dans un premier temps.
Alors, on va pas dévoiler plus du livre Lena Garm, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière parce que j'évoquais l'importance des géographies intimes, que ça soit pour cette petite fille avec ce canapé, avec cette description de son univers. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque étape de la vie de la narratrice. C'est-à-dire que le décor est très très important, la sensorialité est très très importante. Et dans cette description des décors, vous attachez beaucoup d'importance aux détails, alors que par contre, on ne voit pas de description de personnages, c'est les lieux qui comptent.
Ah, c'est vrai, ça je... Oui, vous avez raison. Bah, ça, je pense que c'est ce que j'aime lire. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'embarque pas de savoir qu'un personnage est grand, petit, gros, mince, vieux, jeune. Ça ne m'apporte aucune information. En revanche, la couleur de sa chemise... ou la manière qu'il aura de remettre ses lunettes me parle de lui beaucoup plus fort. Et ça, c'est très personnel, j'imagine. Hein. Je sais pas, mais c'est vrai que donc, moi, spontanément, l'appareil, c'est pas un exercice de style. C'est que moi, pour décrire quelqu'un ou quelque chose, des micro-attitudes, une manière de s'asseoir, de sourire, ou une lumière dans les yeux me parlera beaucoup plus que... le nom d'une ville ou le nombre de pièces dans une maison.
C'est ce qui fait l'originalité et le plaisir du livre aussi.
Ah bah c'est gentil. Ça, je me rends pas compte. C'est vrai que c'est très naturel. Du coup, je me rends pas compte. Je me rends même, enfin là, c'est parce que vous le dites, mais c'est vrai que je me rends même pas compte que les gens ne sont pas décrits physiquement.
Non.
Comme moi, ils existent dans ma tête. Je n'ai même pas le...
Mais justement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir effectivement, de visualiser ce canapé. Par exemple, il est très très important le canapé.
Il est très important le canapé jaune. Ouais. Oui, oui, c'est la digue derrière laquelle elle se cache toute son enfance pour écouter ses parents et essayer d'entendre son mot, de comprendre ce qui se trame, quoi, parce qu'elle est avec cette insécurité permanente et cette hypervigilance. Qu'elle ne comprend pas, puisque tous les adultes autour d'elle lui renvoient qu'elle est une petite fille très heureuse. Et comme on... Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'on parle les enfants, on leur adresse pas la parole, on dit qu'ils sont comme ci, qu'ils n'ont pas fait ça, qu'ils seront contents parce qu'ils ont telle activité, et quand même on s'adresse à eux, leur parole, elle est toujours comme pondérée par le fait qu'ils sont petits et qu'ils n'ont pas tous les mots. Et donc, en fait, avoir un échange, c'est impossible quand on est enfant. Moi, je me souviens très bien de me dire des choses comme ça, où je voulais parler avec des adultes. Et je me disais, ah merde, ils croient que j'ai 7 ans. Je me souviens très bien de me dire ça à un moment, je pense que c'est la première fois que je me le suis dit, après je me suis souvent dit, mais de me rendre compte de cette conscience que je faisais 1m10 et qu'il avait l'impression de parler à une petite fille et que donc il n'allait pas tout me dire.
septembre. Notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre. À Paris, au mois d'août, de larmes et de rires était fait notre amour. Qui redoutant le pire vivait au jour le jour. Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre. Dire je t'aime aussi loin que tu sois. Une part de moi-même reste accrochée à toi et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris. Notre amour un peu fou pour que tout recommence à Paris au mois d'août.
On parlait du canapé, ouais, des décors, et après on a dérivé sur justement la parole des enfants et le fait que les repères matériels étaient importants. Et c'est quelque chose qui va durer pour la narratrice, parce que à chaque étape de sa vie, le décor sera important dans le foyer avec un PH au début.
Oui, c'est ça. Oui, bah, en fait c'est ça, vous avez raison. Je pense que là où le décor a l'air aussi peut-être si important, c'est que le reste des humains n'est pas du tout structurant. Ouais, voilà. C'est rempli de courants d'air, d'injonctions contradictoires. La norme est sans cesse redéfinie, requalifiée. Elle est valable pour certains, pas pour d'autres. Et donc, en fait, on ne peut pas s'appuyer sur les humains, ni dans leur présence physique, ni dans leur présence orale. Donc, en fait, oui, je pense que c'est comme se tenir au cendrier plutôt que de tenir le cendrier. Enfin, c'est le décor, la seule chose qui est
tangible.
Oui, et puis qui est immuable autour d'elle. Et ça, probablement que ça reste dans sa psyché, parce que c'est pas forcément vrai du foyer qu'elle tente de créer. La personne avec qui elle est n'est pas quelqu'un d'instable, au contraire. Mmh. Elle est plutôt très...
Très carré,
oui. Très très stable, justement. Mais en effet, ça doit être une incapacité originelle à se fier au décor humain.
Ça s'appelle « Tu meurs ou tu tues », c'est de Léna Gare, c'est paru chez Vertical. Il y a encore plein de choses dans ce livre qu'on n'a pas évoquées, parce qu'on n'a pas parlé des autres personnages qui chacun ont leurs particularités, des amis de la famille, de tous ces univers qui vont être évoqués. C'est un livre très dense et très riche. Merci en tout cas, Léna Gare, de nous l'avoir proposé, et qui sait. Peut-être quand même une autre fois.
Voilà, si j'ai un autre monde à construire, je m'y remettrai.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous, infiniment.
Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one. And they're all ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one.